Mathieu Roy, bonjour.
Bon vendredi, Louis.
Parlons un peu de techno et Google Maps qui veut tester l'affichage des feux de circulation.
Oui, je vous rassure tout de suite, ça sera pas l'état du feu de circulation, c'est-à-dire est-ce que c'est vert, jaune ou encore rouge, mais ça pourrait certainement être intégré dans un avenir rapproché parce qu'évidemment, avec Google Maps, c'est cette application de cartographie et de navigation extrêmement populaire, eh bien, la force du nombre fait en sorte qu'on sait s'il y a un ralentissement ou non sur la route. Et si on sait qu'il y a un feu de circulation et que là, on détecte l'immobilité des gens, bien, on est capable, à ce moment-là, de savoir que le feu est probablement sur le rouge si personne n'a rapporté un accident. Bref, les feux de signalisation vont être une nouvelle fonction que vous allez voir apparaître dans un avenir rapproché parce qu'en ce moment, on fait cette intégration-là aux États-Unis. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de donner un meilleur aperçu en temps réel de l'état de la circulation.
Et des délais pour se rendre à un endroit, finalement.
En plein ça, et tu pourrais dire, par exemple, probablement dans les options à venir, éviter le plus possible les feux de circulation. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Et on dit que ça pourrait fournir aussi une estimation encore plus fiable dans le calcul de nos itinéraires. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est quand Google va nous dire, par exemple, selon le trajet, vous sauvez tant de temps parce que vous pourriez avoir trois lumières rouges sur votre parcours. Tu sais, je sens qu'on va peut-être aller vers ça. Et aussi, pour la navigation, plutôt que de dire tourner à gauche sur, je ne sais pas moi, le boulevard René Lévesque, ça pourrait être tourner à gauche à la deuxième lumière, ce qui est des fois peut-être plus facile en matière de repérage parce que tu ne vois pas nécessairement quel est le nom de la rue ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, on bonifie l'expérience avec Google Maps, qui commence à être un ramassis de beaucoup de choses, soit dit en passant, là, parce qu'on peut y faire et retrouver des critiques de restaurants, savoir l'achalandage dans tel ou tel commerce. Mais c'est une application qui regroupe beaucoup de choses.
Bon, pendant ce temps, Sony investit 250 millions dans les studios du jeu Fortnite.
Oui, Fortnite, ce jeu extrêmement populaire, un jeu en ligne gratuit, mais qui rapporte des tonnes d'argent parce que on peut y acheter des améliorations cosmétiques à l'intérieur du jeu. On peut, comme ça, jouer contre des amis. Je pense qu'il y avait au-dessus de 350 millions de joueurs actifs ou en tout cas inscrits. C'est un succès planétaire. Et là, c'est le studio qui s'appelle Epic Games qui a vu justement Sony investir 250 millions de dollars pour avoir une part minoritaire dans ce studio-là. Il y avait déjà une relation très étroite entre Epic Games et Sony pour des raisons évidentes. C'est que Sony, c'est les fabricants de la PlayStation, une console aussi très connue. Donc, est-ce qu'on a l'intention d'étendre davantage notre collaboration? Est-ce qu'on veut développer aussi le prochain gros hit dans le monde du jeu vidéo en ligne? Est-ce qu'on veut peut-être créer des modes de jeu exclusifs pour les prochaines consoles de Sony parce que la PlayStation 5 va arriver à la fin de l'année? Donc, c'est quand même assez intéressant de voir justement cette espèce de... Probablement que 250 millions pour Sony, c'est pas grand-chose, mais au moins, ça les place dans le coup si jamais Epic Games a un autre lapin dans son chapeau ou un autre as dans sa manche.
Bon, Elon Musk, pendant ce temps, veut sa voiture entièrement autonome d'ici la fin de l'année.
Ouais, on sait qu'en ce moment, les voitures Tesla sont partiellement autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent éviter, par exemple, des obstacles ou encore conduire de manière... en fait, je dirais troublement efficace sur l'autoroute. Ils vont être capables d'ajuster leur vitesse, éviter comme ça et comprendre la circulation qui nous entoure. Mais c'est encore une fois la responsabilité du chauffeur, de la personne derrière le volant, de reprendre le contrôle à tout moment. La responsabilité n'est pas imputable à la voiture. C'est vraiment la personne, le propriétaire derrière le volant qui est responsable de la conduite et d'éviter, évidemment, les accidents. Ce que Elon Musk veut mettre au point, c'est une voiture entièrement autonome, capable de se déplacer sans conducteur au volant. Lui avait déjà parlé d'un véhicule totalement autonome pour l'automne 2018, mais là, ce qu'il veut, c'est d'ici la fin de l'année. Ce qui n'est pas inintéressant, c'est ce qu'on appelle le niveau 5. Il y a une espèce de certitude de machine, c'est-à-dire que là, la voiture pourrait rouler complètement seule. Tu imagines qu'il y a des obstacles juridiques et réglementaires hallucinants. Au Consumer Electronics Show, moi, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant, que je n'avais jamais vu avant, c'est-à-dire j'avais pris place dans une voiture derrière laquelle, dans le fond, il n'y avait personne au volant. Mm-hmm. J'étais sur la banquette arrière, il y avait un ingénieur dans le siège passager, mais en avant de moi, c'est-à-dire j'étais assis en arrière, sur la banquette arrière, il n'y avait personne dans le siège du conducteur. Ouais. Exactement. Et très rapidement, je me suis senti bizarrement à l'aise, mis à part le fait que le volant bougeait tout seul. Puis je me disais peut-être que je serais plus confortable s'il n'y avait pas de volant, étonnamment.
Ah oui, hein, parce que tu aurais l'impression que...
Il y avait comme une présence fantomatique.
Oui, exact, c'est ça.
Mais ce qui est rassurant, c'est de voir ce que la voiture voit. Oui. Quand ils nous mettent une tablette avec un écran qui nous montre ce que tous les capteurs, ce que tous les radars ou les lidars, ce que le GPS est à même de constater, c'est, on n'a pas le choix de réaliser que la voiture voit mieux que nous.
Oui, exactement. Sauf que ça pose des problèmes, particulièrement au Québec, là, où il y a de la neige et tout ça. Bon, on va terminer avec des robots aux responsables qui vont être responsables de l'ambiance au baseball.
La Nippon Professional Baseball League, ils ont encore des matchs d'organiser malgré cette pandémie, mais évidemment, les estrades, les tribunes sont complètement vides.
Ouais.
Et la société SoftBank possède l'équipe de Fukuoka, les Hawks, et on a trouvé une façon de mettre un peu d'ambiance dans le stade, c'est qu'on a mis dans une espèce d'une scène des robots Pepper, qui sont une espèce de robots humanoïdes pour reconnaître les êtres humains et pouvoir leur prêter assistance. Ça peut être un robot, par exemple, hôtesse, c'est-à-dire qui va accueillir les gens dans un restaurant ou encore dans un hôtel, et des robots Spot, cette espèce de quadrupède, là, un peu comme un petit chien robot développé par Boston Dynamics. On les a mis aux couleurs des Hawks. Ils ont entamé de façon coordonnée des musiques liées à l'équipe. Il y avait une espèce de chorégraphie. Il y avait un peu comme si des personnes genre, dansaient de manière synchronisée.
Ouais.
Donc, on a fait un clin d'œil là-dessus. Est-ce que ça trouvera écho ailleurs que dans les chroniques techno? Peut-être pas.
J'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est intéressant.
Mais la démonstration était le fun parce que c'est sûr qu'un stade vide, c'est long, longtemps au baseball. Là.
Oui.
Mais voir ces petits robots-là entre les manches ou quand un frappeur vedette arrive au bâton, j'ai fait OK, ça amuse peut-être le temps qu'on déconfine complètement. Là.
Et ça amuse les Japonais, en tout cas, ça, c'est sûr.
Ah oh, oui, ça. Ben, je t'avoue que quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait. OK, j'ai souri un peu naïvement, puis j'avais genre 14 ans.
Oui, mais ils sont très forts dans la robotique au Japon. Ils aiment beaucoup ça.
C'est vrai.
Ouais. Allez, merci, Mathieu. À lundi.
À lundi, bye.
Salut bien.